Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu vesselamu ala Rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ittaba huda. Amma ba'du fa aujourd'hui le 21 du mois de Ramadan de l'année 1442 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le cinquième cours de notre série de cours concernant les règles du jeûne tiré du livre de l'imam Shawkani rahimahullah ta'ala Ad-Darari Al-Mudiyyah fi sharh Ad-Durar Al-Bahiyyah fi al-Masail al-Fiqhiyyah. Que nous avons choisi de traduire dans un sens approximatif, les étoiles scintillantes projetant la lumière sur les perles magnifiques ornant les questions jurisprudentielles. L'explication comme le matn, l'ouvrage de base, sont de l'imam Mohammed ibn Ali al-Shawkani, rahimahullahu ta'ala. Je rappelle que les cours de cette année traitent de ce livre, en particulier donc ici le chapitre du jeûne. Et comme je l'ai dit au premier cours, je vais simplement faire la lecture du livre en proposant une traduction approximative, puis faire un léger commentaire avec les paroles des savants au moment opportun. Et comme nous sommes maintenant dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan, je vais accélérer un petit peu afin de pouvoir au moins nous rapprocher de la fin du livre. Sachant que je voulais à la base terminer le livre, mais il se peut que je ne le puisse pas. Et ceci n'est pas un problème en soi, je terminerai un petit peu après l'Aïd, car il y a comme chapitre, par exemple, dans ce chapitre du jeûne, il y a comme sous-chapitre ce qui concerne le jeûne surérogatoire, donc qui ne concerne pas le jeûne du mois de Ramadan. De même que il y a ce qui est en relation avec la compensation à donner pour les jours de jeûne non jeûnés ou le rattrapage du jeûne. Choses qui nous seront utiles, qui nous sont utiles pendant le mois de Ramadan comme après le mois de Ramadan. Donc ces deux chapitres qui sont à venir, hors le chapitre que je vais commencer aujourd'hui, ou le sous-chapitre du chapitre du jeûne, du livre du jeûne, le sous-chapitre que je vais commencer aujourd'hui qui est le chapitre des annulatifs du jeûne, hors ce chapitre-là, il nous restera deux chapitres qui ne sont pas forcément à traiter pendant le mois de Ramadan, c'est-à-dire qu'ils ont bien sûr un lien direct avec le mois de Ramadan, comme avec le jeûne, en général, lorsqu'on parle du jeûne surérogatoire, de même que ce qui est en relation avec le rattrapage des jours de jeûne non jeûnés. Et bien évidemment, comme vous l'avez compris, le rattrapage ne se fera qu'en dehors du mois de Ramadan. Il nous restera un dernier chapitre concernant l'i'tikaf, ce qu'on a choisi de traduire comme la retraite spirituelle. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous facilite à terminer le livre dans les plus brefs délais et de la meilleure manière. Encore une fois, je rappelle que le but était un léger commentaire de ce livre, de l'imam Shawkani, et non de traiter chaque affaire, chaque sujet en détail, de même que je me contente de traiter ce que l'imam Shawkani a rapporté dans le livre. Pour des sujets externes, qui sont des sujets très importants bien sûr pendant le mois de Ramadan, des sujets qui traitent des 10 derniers jours par exemple, des 10 dernières nuits du mois de Ramadan, de la nuit du destin, de même que ce qui est en rapport avec la veillée, al-qiyam, la veillée en prière, de même que al-qunut, le dua qui se fait lors de la prière de l'witr, de même que la manière de réciter ce dua, de même que d'autres affaires et d'autres sujets qui sont en relation avec le jeûne, j'ai renvoyé dans les premiers audios à cette série de cours que j'ai dispensé l'année dernière sur l'explication du livre Al-Mulakhas Al-Fiqhi, concis jurisprudentiel de Cheikh Al-Fawzan. La deuxième partie de chaque cours était consacrée à ces questions et ces sujets relatifs aux jeunes et qui ne sont pas forcément traités dans ces livres. Nous revenons au cours d'aujourd'hui concernant le deuxième sous-chapitre donc des annulatifs du jeûne. Comme d'habitude, je lirai le matn Ad-Durar Al-Bahiyyah, puis je donnerai sa traduction et la traduction de son explication. L'imam Shawkani rahimahullah ta'ala dit « Faslun fi dhikri mubtilati s-sawm » ويبطل بالأكل والشرب والجماع والقيء عمدا ويحرم الوصال وعلى من أفطر عمدا كفارة ككفارة الظهار ويندب تأجيل الفطر وتأخير السحور. Ici, la parole de l'imam Shawkani dans Al-Matn, chapitre des annulatifs du jeûne, dans le sens approximatif de ces paroles, une traduction
approximatif proposé. Il dit, le jeûne s'annule par le fait de manger, boire, avoir un rapport charnel et vomir volontairement. Le wissal est illicite. Il incombe à celui qui rompt volontairement le jeûne une expiation identique à celle de al-dhihar, de l'expiation de al-dhihar. Il est préférable de hâter la rupture du jeûne et de retarder le repas de l'aube. Ici, comme je l'ai dit, l'imam Shawkani, dans le chapitre du jeûne, le livre du jeûne, vient avec des sous-chapitres. Ici, le deuxième sous-chapitre qui est celui des annulatifs du jeûne. Puis, chaque partie de Al-Matn, de Ad-Durar al-Bahiyya, est disposée de sorte à donner des titres ou des sous-titres de ce sous-chapitre. Nous commencerons par le premier, qui est en rapport avec l'annulation du jeûne par le fait de manger, boire et avoir un rapport charnel, ainsi que de vomir volontairement. Il dit, rahimahullah ta'ala, dans le sens de ces paroles. Bien sûr, ici, il y a des mots que j'ai cités que je vais expliquer en son temps voulu. Le premier sous-titre, il dit, dans le sens de ces paroles, quant à l'annulation du jeûne par le fait de manger et boire volontairement. Ici, Cheikh Zayd al-Matkhali, rahimahullah ta'ala, a dit dans son explication du livre Al-Matn al-Durar al-Bahiyya, il dit dans le sens de ces paroles, de même que toute chose considérée comme nourrissante et qui remplit la fonction de la nourriture et de la boisson, telles que les perfusions nourrissantes à cette époque, donc à notre époque ici, à l'époque de Cheikh Zayd rahimahullah, qui est notre époque, quand elles sont administrées en intraveineuse, annulent le jeûne du jeûneur. Ici, Cheikh Zayd a précisé un point important qui n'a pas été précisé par l'imam Shawkani, où l'imam Shawkani s'est contenté de rapporter le fait que le jeûne s'annule par le fait de manger, boire, avoir un rapport charnel et vomir volontairement. Ici, Cheikh Zayd a rapporté une chose qui n'était pas présente, par exemple, à l'époque de l'imam Shawkani, qui sont, par exemple, les perfusions nourrissantes. Et Cheikh Zayd de généraliser en disant, de même que toute chose considérée comme nourrissante et qui remplit la fonction de la nourriture et de la boisson. Il dit telle que les perfusions nourrissantes, jusqu'à la fin de sa parole que je viens de lire. Ici, Ash-Shawkani dit dans le sens de ses paroles, dans son explication donc de son matn, Ad-Durar al-Bahiyya, il dit « Il ne s'y trouve aucune divergence. » C'est-à-dire quant à l'annulation du jeûne, par le fait de manger et de boire volontairement. Il commence par cela, manger et boire volontairement. Il ne s'y trouve aucune divergence. Mais si c'est par oubli, le jeûne ne s'annule pas. En raison du hadith de Abu Huraira, radiallahu anhu, dans les deux authentiques, c'est-à-dire dans les deux recueils authentiques et d'autres, où il dit, avant de rappeler une traduction approximative du hadith, je citerai simplement Cheikh Siddiq Hassan Khan dans son livre Rawda An-Nadiyya, donc l'explication de Ad-Durar al-Bahiyya, où il dit, rahimahullah ta'ala, la majorité des savants ont adopté cette position, et ceci est la vérité, et qui viendrait opposer à cette sunna son opinion corrompue, celle-ci sera renvoyée et jetée à son visage. C'est-à-dire le cas de la personne qui mange par oubli, quelqu'un qui aura oublié qu'il est à jeun et qu'il mange, puis se rappelle, après cela, avoir été en état de jeûne ou être en état de jeûne, à ce moment-là, le jeûne ne sera pas annulé. Donc, il dit, en raison du hadith de Abu Huraira, radiallahu anhu, dans les deux recueils et d'autres, où il dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, dans le sens bien sûr de ses paroles, quiconque oublie qu'il est en état de jeûne et mange ou boit, qu'il poursuive son jeûne, car c'est Allah qui l'a nourri et abreuvé. Dans la version de Ad-Darqutni, avec une chaîne de transmission authentique, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens de ses paroles, « Certes, c'est une subsistance qu'Allah lui a amenée et il ne lui incombe aucun rattrapage. » Et ce hadith est jugé authentique, ou cette version est jugée authentique par Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dans As-Sahiha, As-Silsila As-Sahiha. Dans une autre version de Ad-Darqutni, de même que Ibn Khuzayma, Ibn Hibban et Al-Hakim, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens de ses paroles, bien sûr, « Quiconque rompt un jour de jeûne de Ramadan par oubli, il ne lui incombe aucun rattrapage ni expiation. » Et sa chaîne de transmission est également authentique, comme le dit ici l'imam Shawkani, de même que Cheikh Al-Albani, rahimallah, dans l'Irwa, le juge bon. Puis, Shawkani, rahimallah, de dire, « Il en est de même pour le rapport charnel. Il n'y a pas divergence concernant l'annulation du jeûne quand il est fait volontairement. » En revanche, s'il se produit par oubli, certains gens de science l'ont assimilé au cas de celui qui a mangé ou bu par oubli, conformément à sa parole dans l'autre version, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens « Quiconque rompt un jour de jeûne de Ramadan par oubli et ne lui incombe aucun rattrapage. » Et d'autres ont rejeté cette analogie, cette assimilation. Ici, l'imam Shawkani donc évoqua une divergence qu'il y a entre les savants et il rapporta une preuve où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de manière générale « Quiconque rompt sans préciser par le fait qu'il a mangé ou qu'il a bu, plutôt rompt le jeûne de Ramadan par oubli. Il ne lui incombe aucun rattrapage. » Ici, pour cela, les savants ont fait cette analogie avec le rapport charnel. Si la personne a ce rapport de manière involontaire, eh bien, son jeûne sera toujours valide. Comme l'a rappelé l'imam Shawkani ici, il y a donc divergence et d'autres n'ont pas pris en compte. N'ont pas pris en compte cela. Et concernant le vomissement volontaire, il dit, rahimallah dans ses paroles, concernant le vomissement volontaire, il annule le jeûne en raison du hadith de Abu Huraira, radiallahu anhu, selon lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens bien sûr de ses paroles, celui qui est pris de vomissement, il ne lui incombe aucun rattrapage, et celui qui provoque volontairement son vomissement doit rattraper. Ce hadith est jugé authentique par Al-Albani, rahimallah, dans Al-Irwa. Et l'imam Shawkani nous dit, recueilli par, donc ce hadith est recueilli par Ahmed, Abu Daoud, Al-Tirmidhi, Ibn Majah, Ibn Hibban, Al-Darqutni, Al-Hakim, qui, c'est-à-dire Al-Hakim, l'a déclaré authentique. Puis il dit, rahmahullah, Ibn al-Mundhir a rapporté le consensus affirmant que vomir volontairement annule le jeûne. Toutefois, cela est discutable, car Ibn Mas'ud, Ikrimah, Rabi'ah, Al-Hadi et Al-Qasim ont dit que le vomissement n'annulerait pas le jeûne, qu'il soit involontaire ou provoqué, tant que rien de ce qui a été vomi n'est ravalé volontairement. Ils ont pris comme preuve le hadith, dans le sens, trois choses ne font pas rompre le jeûne, le vomissement, la hijama et le rêve érotique. Et ce hadith est jugé faible par Al-Shir Al-Albani rahimahullah dans son authentification de Sunan Abi Daoud, car, comme le dit Al-Shawkani, ce hadith est recueilli par Al-Tirmidhi, d'après Abu Sa'id. Cependant, il figure dans sa chaîne de transmission Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam, qui est faible. Donc, ici, l'imam Shawkani opposa à la parole de la plupart des savants, qui est la parole qui est la plus juste, le fait que celui qui vomit volontairement, qui se fait vomir volontairement, celui-là, son jeûne sera nul. Comme il fut rapporté dans ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens de ses paroles, celui qui est pris de vomissement et ne lui incombe aucun rattrapage, et celui qui provoque volontairement son vomissement doit rattraper. Donc celui qui se fait vomir volontairement, il devra rattraper le jeûne. En revanche, celui qui aura vomi involontairement, celui-là n'aura pas de jeûne à rattraper. L'imam Shawkani ici rappela l'avis des savants qui voient que ceci n'est pas exact, c'est-à-dire qu'une personne, même si elle jeûne, qu'une personne, même si elle se fait vomir volontairement, ceci ne rompra pas son jeûne. Si elle n'a pas avalé volontairement une partie de ce vomi, eh bien, pourquoi a-t-il rappelé cette parole ici en opposition à la parole d'Ibn al-Mundhir qui lui a prétendu qu'il y ait un consensus par rapport à cela? Simplement, l'imam Shawkani a rappelé cela pour montrer que ici il n'y a pas de ijma' sur cette affaire, il n'y a pas de consensus. Car, en effet, certains savants de la communauté n'ont pas été d'accord avec ce jugement. Donc la vérité, c'est que la plupart des savants, la grande majorité des savants, voient que celui qui est pris de vomissement, il ne lui incombe aucun rattrapage, et celui qui provoque volontairement son vomissement devra rattraper. Puis, le deuxième sous-titre de cette deuxième partie, qui est le chapitre des annulatifs du jeûne, du livre du jeûne, il dit « Pour ce qui est de l'illicité du wissal », il nous convient ici de définir ce qu'est el-wissal. El-wissal, de manière résumée, nous dirons que c'est le jeûne sans interruption. C'est un terme qui désigne le jeûne qui n'est pas rompu au coucher du soleil, que celui-ci dure jusqu'au repas du matin, jusqu'au sahur, ou durant plusieurs jours consécutifs. Il dit, rahmahullah, pour ce qui est de l'illicité du wissal, c'est en raison de l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam de le pratiquer. Comme dans le hadith de Abu Huraira, Ibn Umar et Aisha, radiyallahu anhum, qui se trouvent dans les deux recueils authentiques, ainsi que d'autres. Et il y a dans ce chapitre plusieurs ahadiths. Il y a, concernant donc el-wissal, plusieurs ahadiths qui viennent corroborer cette interdiction de el-wissal. Puis, Al-Shawkani dit dans le sens de ses paroles, rahimahullah, quant à l'obligation de l'expiation pour celui qui a volontairement rompu le jeûne. Il dit, rahimahullah, ceci en raison du hadith de l'homme qui a eu un rapport charnel avec sa femme. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, dans le sens bien sûr de ses paroles, « Es-tu en mesure d'affranchir un esclave ?»« Non, » répondit-il. « Es-tu capable de jeûner 2 mois consécutifs ?»« Non, » dit-il. « Es-tu en mesure de nourrir 60 pauvres ?»« Non, » dit-il. Puis on amena au prophète sallallahu alayhi wa sallam un panier de dattes. Il lui dit « Donne cela en aumône. » Et l'homme de lui répondre « Les donner à plus pauvres que nous ?» Il n'y a pas entre ces deux monts, c'est-à-dire dans la ville de Médine, d'habitants plus besogneux que nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sourit, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à laisser paraître ses molaires et dit, va et nourris-en ta famille. Et il se trouve, donc ce hadith dans les deux recueils authentiques, entre autres, selon le hadith de Abu Huraira et de Aisha, radiyallahu anhuma. Subhanallah. Regardez ici la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci, comme l'a décrit Allah tabaraka wa ta'ala, dans son livre, où il dit dans le sens de ses paroles, certains messagers pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Subhanallah. Regardez cette manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a de donner ici ce jugement juridique, cette fatwa à ce compagnon qui vint le voir. Regardez la miséricorde de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici donc, l'imam Shawkani nous dit, d'aucuns ont avancé que l'expiation n'incombe pas à celui qui rompt volontairement son jeûne, quelle que soit la cause, mais elle incombe plutôt pour le rapport charnel uniquement. Toutefois, l'homme, ici donc l'imam Shawkani a rapporté de certaines personnes parmi les gens de science qui voient que l'expiation dont il a évoqué ici dans son livre, l'expiation, al-kaffara, n'incombe pas à celui qui rompt le jeûne. Bien sûr, ici, vous comprendrez que al-kaffara, l'expiation est différente de al-qada. Al-qada qui est le fait de rattraper le jour. Ceci est une chose, rattraper est une chose qui incombera à celui qui aura rompu volontairement. Mais ici, certains savants, parmi eux l'imam Shawkani, mettent en condition que la personne accomplisse aussi une kaffara, c'est-à-dire une expiation. Et ici, l'imam Shawkani parle de ces savants qui ne voient pas que l'expiation est obligatoire, si ce n'est pour le rapport charnel. Il dit, toutefois, l'homme n'a fait qu'avoir avec son épouse un rapport charnel qui, pendant la journée de Ramadan, n'est pas différent du fait de manger et de boire, qui sont tous licites et ne deviennent illicites qu'à partir de la survenance du jeûne. Il a été rapporté dans une version du hadith que l'homme a rompu son jeûne sans toutefois mentionner le rapport charnel. C'est-à-dire ici que l'imam Shawkani, pour argumenter ce point, pour argumenter le fait qu'il voit, ceci est son avis, qu'il voit que le fait de manger ou boire ou avoir des rapports charnels, tout ceci bien sûr on parle volontairement, comme nous l'avons vu précédemment, lorsque ceci est involontaire, la personne n'a pas fauté, n'a pas de jeûne à rattraper. Mais lorsqu'une personne ici rompe son jeûne avec l'une de ces manières-là, volontairement, il lui incombera al-kaffara, qui est l'expiation. Et cette expiation qui est voulue ici, c'est l'expiation de al-dhihar. L'expiation de al-dhihar. Al-dhihar, qui est, pour résumer, lorsque l'homme dit à son épouse, quand il souhaite s'abstenir d'elle, « Tu es pour moi comme le dos de ma mère » ou de ma sœur, ou d'autres expressions visant le fait qu'elle lui est interdite, comme lui sont interdites ces dernières. Ceci est ce qu'on appelle al-dhihar. Et l'expiation de al-dhihar, si une personne prononce cette parole envers sa femme et lui dit « Tu es pour moi comme le dos de ma mère, tu es pour moi comme le dos de ma sœur, tu es pour moi comme ma mère », d'autres expressions visant au fait que cette personne, cette femme, est interdite pour lui. Est interdite pour lui comme sa mère lui serait interdite. Ici, ceci est une chose qui est interdite, comme Allah Azza wa Jal l'a interdit dans le Coran. Et la personne qui aura dit cette parole, prononcé cette parole, qui est un mensonge, qui n'est pas vrai, cette personne-là, c'est son épouse, elle ne lui est donc pas interdite comme lui était interdite sa mère ou sa sœur ou autre parmi les femmes qui sont interdites. Donc cette personne devra donner ou devra s'acquitter de al-kaffara, de l'expiation. Et l'expiation de celui qui aura prononcé cette parole, l'expiation de al-dihar, est une expiation qui est obligatoire, qui sera d'affranchir un ou une esclave croyante. Si la personne ne peut pas, ne le trouve pas, jeûner 2 mois consécutifs, et si la personne ne le peut pas, elle devra nourrir 60 pauvres. Ici, l'imam Shawkani nous dit que cette expiation, pour la personne qui aura mangé, cette expiation est effective concernant la personne qui aura, en effet, eu des rapports intimes avec son épouse, eu des rapports sexuels avec son épouse pendant la journée de Ramadan. Ce jugement est un jugement qui est effectif. Et ici, ce n'est pas... C'est bien sûr, cette expiation est la même que l'expiation de Dihar, mais cette expiation, ici, est celle de celui qui a des rapports sexuels pendant la journée de Ramadan. Ceci d'après la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith que nous avons évoqué. Par contre, concernant la personne qui aura mangé et bu volontairement, l'imam Shawkani voit que le jugement sera le même que celle qui a eu des rapports intimes avec son épouse pendant le mois de Ramadan et donc devra s'acquitter de cette expiation que j'ai évoquée précédemment, qui est la même expiation que pour celui qui aura prononcé cette parole, qui est la parole de Dhihar, comme lui-même l'a évoqué dans Al-Matn. Et ceci n'est pas juste. Ceci n'est pas juste et ce n'est pas l'avis le plus sûr, le plus juste. Plutôt, l'avis le plus juste est que ce hadith, évoqué par l'imam Shawkani, est un hadith qui est particulier au fait qu'une personne aurait eu des rapports intimes avec son épouse. C'est-à-dire que le jugement ici est particulier au fait d'avoir des rapports intimes pendant le mois de Ramadan volontairement. Et non le fait de manger et de boire volontairement pendant le mois de Ramadan. Et ce qui est juste et ce qui est l'avis le plus sûr et le plus juste est que la personne qui aura mangé et bu volontairement pendant le mois de Ramadan devra rattraper ce jour de jeûne tout en demandant pardon à Allah tabaraka wa ta'ala et en se repentant à lui pour ce péché qu'il a commis, le fait de rompre le jeûne volontairement pendant le mois de Ramadan en mangeant et en buvant. Et il devra ensuite rattraper son jour de jeûne. Concernant ce jugement de la personne qui aura donc rompu le jour de jeûne en ayant des rapports intimes avec son épouse, il devra rattraper ce jour de jeûne qu'il n'a pas jeûné, le rattraper, al-qadha, de même qu'il devra s'acquitter de cette kaffara, qui est l'expiation que j'ai évoquée précédemment, c'est-à-dire qu'il devra affranchir un ou une esclave croyant ou croyante. S'il ne le peut pas, s'il ne le trouve pas, il devra jeûner 2 mois consécutifs et s'il ne le peut pas, il devra nourrir 60 pauvres. Il ne devra pas passer d'une des manières d'expier cette faute à une autre si il a la capacité de faire celle précédente. C'est-à-dire que ce jugement est dans son ordre. Il devra respecter l'ordre qui fut évoqué dans le hadith par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire soit affranchir un ou une esclave croyant ou croyante, s'il ne le peut pas, jeûner 2 mois consécutifs, s'il ne le peut pas, nourrir 60 pauvres. Il ne doit pas, par exemple, s'il a fait cela, directement nourrir 60 pauvres. Ceci n'est pas correct, ceci n'est pas exact. Il devra d'abord essayer soit d'affranchir l'esclave, soit de jeûner 2 mois consécutifs. S'il ne le peut pas, eh bien, nourrir 60 pauvres. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.